Et on démarre cette édition spéciale sur les sujets d'intelligence artificielle au sein des TPE, des PME, avec deux invités de choix. Nella est avec nous, Nella Choukri, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes la directrice générale fondatrice de Collecto, qui est une fintech affiliée au groupe Crédit Agricole et qui est vraiment dédiée aux TPE, PME. Et puis avec vous, Geoffroy Caillou. Bonjour Geoffroy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là également. Chef du service de l'économie de proximité à la DGE, la Direction Générale des Entreprises, donc rattachée au ministère de l'économie. Ça m'intéressait d'avoir votre regard croisé sur cette transformation numérique des TPE, des PME avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment tout ça, c'est en train de s'accélérer ?
Oui, alors nous, on peut le constater, en tout cas dans les clients qu'on adresse aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, c'est que même ceux qui ne sont pas forcément digitalisés ont eu en tout cas l'usage, même en personnel, de l'IA. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les processus des PME, c'est devenu aussi une habitude de pouvoir intégrer, en tout cas se poser la question.
D'accord.
Est-ce que je vais utiliser l'IA pour me simplifier telle et telle chose ? Est-ce que je vais recruter ce poste-là aussi, ou plutôt recruter un autre poste qui soit adossé à de l'IA ? On ne voit pas forcément un sens de ne pas recruter les gens, mais par contre, c'est de recruter différemment avec l'intégration de l'IA.
Où est-ce qu'on en est de cette digitalisation des TPE, des PME aujourd'hui, Geoffroy ?
Alors, la diffusion de l'IA, elle s'accélère absolument. Les chiffres le prouvent. Puisqu'on était en 2023 à un taux d'usage de 5% à peu près parmi les TPE-PME. C'est passé à 13% en 2024, c'est passé à 26% en 2025. Donc on voit qu'il y a une accélération exponentielle, mais ça ne va pas encore assez vite. Notre objectif du côté du gouvernement, c'est qu'en 2030, 50% des TPE et 80% des PME aient recours de manière pérenne à l'IA. Et donc on a mis en place un certain nombre de mesures pour veiller à accélérer cette dynamique et à la consolider.
Et là, ce sont des chiffres, mais en termes de maturité sur le terrain, vous constatez qu'il y a déjà une maturité sur ce sujet ?
On ne peut pas dire que la maturité, elle est généralisée. Il y a quand même plusieurs nuances. Après, je pense que la chance, en tout cas de cette technologie, c'est qu'il est question de maîtriser des règles métiers, de comprendre. C'est un peu le pilote, finalement, qu'on attend pour pouvoir mettre en place des modèles, c'est pas forcément des techniciens à proprement dit. Donc on peut avoir une vision des règles. Donc on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir embarquer plus de gens qui n'ont pas forcément uniquement l'accompagnement technique ou en tout cas la formation technique. Par contre, la maturité, elle est très teintée. On le voit parce que même les grands groupes d'ailleurs qui se mettent à l'IA, qui sont les plus équipés aujourd'hui pour être en capacité en tout cas d'y adhérer, c'est une acculturation, c'est une transformation. Aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole a investi 500 millions d'euros pour être en capacité de transformer le groupe sur la partie IA, mais ça demande bien une transformation. Et je pense que notre tissu économique en aura également besoin.
Parce que dans le sujet de la digitalisation, il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous mesurez au sein de la DGE pour savoir où en est une PME sur son stade de digitalisation ?
Alors, effectivement, il y a plusieurs composantes. Ça peut être dans certains secteurs comme le commerce, le recours à des plateformes digitales pour la vente de leurs produits, l'appropriation de tous ces nouveaux outils qui permettent d'aller toucher une clientèle différente et puis de varier son offre. Donc effectivement, c'est assez divers et justement, c'est ça qui nécessite, on va dire, un travail sur mesure. Parce que si on veut atteindre ces cibles ambitieuses, il faut s'adapter au public, à la fois en termes de taille, mais aussi en termes de secteur, parce que le besoin d'un artisan, c'est pas le besoin d'un commerçant, c'est pas le besoin d'une profession libérale en matière de digitalisation. Et donc, c'est là qu'on intervient.
Et dans cette digitalisation, il y a l'e-facturation, parce que là, l'échéance est très, très proche. Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet ?
Oui, alors, l'e-facturation, c'est vrai qu'on le voit souvent, et c'est le cas, hein, c'est une réforme fiscale, mais je pense que ça va énormément aider. C'est d'ailleurs une réforme qui va contribuer à la digitalisation des processus d'entreprise. Donc, faut le voir aussi comme quelque chose de positif. Dans l'acculturation qu'on va avoir. Oui. On a aujourd'hui 79%, en tout cas dans nos sondages, d'entreprises qui sont au courant de la réforme de la facturation électronique. En revanche, il n'y en a que 30%.
Combien de pourcents, vous dites ?
79%.
Uniquement ? J'aurais dit beaucoup plus.
alors, qui sont au courant, qui disent en tout cas d'être prêts et d'être au courant voilà, par rapport à la réforme. Quand on dit au courant, c'est pas j'en ai entendu parler, mais c'est vraiment je sais de quoi il s'agit et je sens que
Je connais l'échéance voilà. et on est préparé.
Par contre, il y a un écart, c'est 39% savent vraiment de quoi ils parlent et réellement sont prêts. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, il y a un écart, ce qui fait qu'on va avoir quelques jours, quelques semaines, quelques mois sûrement de flottement, comme nos voisins belges ont connu, comme nos voisins italiens ont connu. Mais aujourd'hui, en Italie, la facture électronique, c'est devenu... Enfin, c'est un standard. En Belgique aussi, après quelques mois, c'est devenu assez banalisé. Donc, on peut imaginer que l'appréhension est plus grande que le moment où on va y adhérer et qu'il va falloir qu'on soit, que ça soit les pouvoirs publics ou également les organismes privés, qu'on soit là pour accompagner les TPE-PME pour que ce passage ne soit pas douloureux.
Si je reviens à l'intelligence artificielle, qui est quand même le grand sujet qui occupe principalement la tête des entrepreneurs en ce moment, quels sont les freins que vous voyez à son adoption ?
Alors, les freins, notamment si on parle
son adoption, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait qu'elle soit correctement intégrée dans les processus.
Si on parle de TPE-PME, et ça, on en parle depuis ce matin avec les entrepreneurs,
ouais.
Le chef d'entreprise, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est un peu l'homme orchestre surtout. C'est lui qui fait tout, donc le premier frein, c'est le temps. Le temps de se dire, je vais m'y mettre, je vais m'intéresser. Dans plus de la moitié des cas, des entreprises sondées, c'est ça le premier frein. Après, le deuxième frein qui apparaît dans 38% des cas, c'est d'identifier un prestataire adéquat. Et donc, l'une de nos tâches, c'est d'arriver à mettre en rapport les entreprises et des offreurs de solutions français de préférence, parce qu'il y a évidemment une dimension de sécurité des données, pour leur donner accès, leur donner envie de passer à l'action, parce qu'il n'y a que par les cas d'usage et il n'y a que par l'exemple des pairs qu'on va vraiment embarquer les PME à bord de cette grande révolution.
Oui, il faut donner des preuves finalement. Peut-être justement partager des cas concrets aujourd'hui d'adoption réussie, on va dire, de l'IA dans des organisations de taille moyenne.
La plupart, en tout cas, des exemples qu'on a pu constater, c'est sur le service client. Notamment, quand vous venez, vous consultez une plateforme et qu'il y a un bug et il y a une problématique. Aujourd'hui, on a des IA qui sont branchées sur cet enregistrement, finalement, de comportement et qui vont aller donner l'information, mais aussi résoudre, finalement, le bug avant que vous ne veniez vous plaindre au service support. Donc ça anticipe la correction de ces bugs-là et donc ça, évidemment, ça augmente la satisfaction client et ça permet de diminuer le taux de contact et donc réduire aussi les efforts sur la partie support. Mais de manière assez globale, je pense qu'on parlait des freins avant, il faut quand même avoir en tête que les gros freins dans le concret, c'est qu'il nous faut de la documentation.
Ouais.
Et en fait, beaucoup de structures fonctionnent beaucoup à l'oral. Et ne documente pas forcément le tout. Donc quand on veut en fait mettre en place des solutions d'IA et d'être en capacité de pouvoir simplifier des processus, il faut des données entrantes, une documentation bien faite dans laquelle on va aller créer des modèles, des règles pour aller puiser sur cette documentation. Donc un des plus gros freins est quand même l'absence aussi dans la culture des TPE-PME de documenter tous les processus qu'il y a en place.
Ouais.
Et le temps, évidemment, pour les documenter, qui va de soi.
C'est ça, consacrer du temps, peut-être même recruter spécifiquement pour ça, pour qualifier ces données. De quelle manière, justement, l'État peut accompagner les TPE, les PME, dans tout ce process qui est quand même indispensable, mais qui peut être long pour une petite organisation qui n'a pas forcément les moyens ni le temps.
Absolument. Alors, on a mis en place plusieurs actions. D'abord, on parlait des cas d'usage. La première chose, c'est d'arriver à recenser ces cas d'usage pour expliquer aux PME et aux TPE quels sont concernés, quelle que soit la taille et quels que soient les secteurs. Donc, il y a eu plusieurs initiatives à cet égard. La dernière en date, c'est de recenser à travers une plateforme de BPI un certain nombre de cas d'usage de l'IA. Et on a également, nous, DGE, publié déjà quelques guides sectoriels. Le premier dans le commerce, un autre dans la logistique, un à venir sur l'artisanat, pour expliquer à ces populations quels sont les cas d'usage au-delà des réseaux sociaux et de la communication qui sont assez connus, et quels sont les vrais cas d'usage qui vont leur faire gagner du temps et de l'argent à la fin du mois. Donc ça, c'est une première action. Ensuite, on s'appuie beaucoup sur le réseau des ambassadeurs de l'IA. le tout dans le plan qu'on appelle Oser l'IA. Donc les ambassadeurs de l'IA, c'est là encore dans ces différents secteurs, plus de 600 personnes aujourd'hui, hommes et femmes, qui vont aller un petit peu expliquer, porter la bonne parole sur l'IA. Et puis une dernière action que je souhaiterais mettre en lumière, on s'appuie beaucoup sur le réseau des chambres de commerce et d'industrie, les CCI, ouais, qui sont un peu le bras armé des politiques publiques dans les territoires. Et ils ont, en 2026, une opération nationale sur la sensibilisation et l'accompagnement à l'IA, objectif de toucher 30 000 PME. Et voilà, on est au milieu d'année, ils ont déjà fait la moitié de cet objectif et même un peu plus, et vont continuer jusqu'en décembre.
Est-ce qu'on peut parler, parce que parmi les freins, on comprend qu'il y a de l'investissement en temps, mais aussi en argent à engager. Est-ce qu'on peut parler de gains de productivité à court terme, à moyen terme ?
Alors, c'est là où le bât blesse d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on sait qu'on gagne du temps. Donc oui, on peut parler de productivité. Après, si vraiment à l'échelle de l'entreprise, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est d'arriver, puisqu'en fait, quand vous utilisez l'IA, finalement, vous passez sur un système de consommation de tokens. Et ce qui est complexe à analyser, c'est à quel point, à partir de combien de tokens je vais utiliser, où ça ne devient plus économiquement viable. Mmh. Donc cette projection, aujourd'hui, on a encore très peu de retours vraiment à grande échelle, de retours d'expérience sur en tout cas ces ratios-là à plus grande échelle. Après, ce qu'on sait, c'est que je pense que c'est la meilleure manière de recenser les cas d'usage. Sur des cas d'usage vraiment spécifiques, on a forcément de la productivité. Maintenant, à l'échelle de l'entreprise, c'est là où c'est un petit peu plus complexe à mesurer.
Oui, et c'est ça qui est attendu pour autant. Il y a aussi, on l'évoque régulièrement, mais là, on l'a pas encore partagé, il y a le sujet de la confiance, de la sécurité aussi autour de l'intelligence artificielle. Hein, comment je me lance dans cette nouvelle aventure technologique en toute confiance ?
Alors, c'est une question profonde. Selon les secteurs, évidemment, la sensibilité des données est pas la même. Je pense notamment à la profession d'avocat, qui compte parmi déjà les plus grandes utilisatrices de l'IA. On parlait un petit peu des moyennes tout à l'heure, mais les professions juridiques sont au-dessus de la moyenne en termes de recours à l'IA. Et ça pose des questions très particulières de sensibilité de ces données. Et je pense qu'il y a un premier niveau de sensibilisation auquel on travaille très bien avec les ordres, le Conseil national des barreaux et puis les différents barreaux de province, qui est d'expliquer qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quel modèle d'IA, si vous voyez auquel je fais référence, ceux que beaucoup de gens ont dans la poche, qui sont gratuits.
Je vois très bien.
Pas mettre des données clients, par exemple, ça paraît évident, mais c'est pas évident pour tous. Et après, à un niveau supérieur, il peut y avoir un tri sur les prestataires, les offreurs de solutions. Et c'est là qu'on disait tout à l'heure, orienté vers des prestataires peut-être français, des prestataires qu'on connaît, sur lesquels on a une plus grande maîtrise sur l'ensemble de la chaîne de sécurité de la donnée, avec jusqu'à des niveaux de grande sécurité pour les données les plus confidentielles. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les fédérations.
Merci beaucoup. Nela Choukri, vous restez avec moi ? On va continuer, on va accueillir d'autres invités. Merci Geoffroy Caillou pour votre partage. Je rappelle que vous êtes le chef du service de l'économie de proximité à la Direction générale des entreprises.